Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
L'heure de retrouver Thibaut Texer pour un nouveau journal. Bonjour Thibaut.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Est-ce le début d'un scandale? L'affaire des laits infantiles contaminés, une bactérie au cœur de deux enquêtes ouvertes après la mort suspecte de deux nourrissons. La cacophonie Betaram au cœur du scandale. L'établissement va-t-il fermer ses portes? Les instances de l'établissement de Pau-des-Mantes. Et une enquête ouverte après qu'un navire de la flotte fantôme russe a été arraisonné par la marine française hier en Méditerranée.
Deux enquêtes ouvertes dans l'affaire des laits contaminés, des laits infantiles contaminés.
Cela fait suite à la mort de deux nourrissons à Bordeaux et à Angers. Ils ont consommé un produit de la marque Gigos, objet d'un rappel chez Nestlé, possiblement contaminé à cette substance d'origine bactérienne produite par l'huile d'une entreprise chinoise. Deux décès et de nombreuses questions en suspens. On fait le point ce matin avec Amélie Courtet.
Prenons le premier cas de décès suspect. À Angers, une petite fille de 27 jours est décédée au domicile de ses parents le 23 décembre dernier. La mère est venue apporter hier aux autorités la boîte de lait qu'elle avait utilisée pour nourrir son enfant. À Bordeaux, c'est un nourrisson de 14 jours qui est mort le 8 janvier au CHU, où sa mère s'était rendue en urgence, inquiète des troubles digestifs sévères de son bébé. Dans les deux cas, les nourrissons avaient consommé du lait infantile de la marque Gigos, marque dont les lots ont fait l'objet d'un rappel en raison d'une contamination à une toxine, la céréulide. Des analyses ont donc été menées en urgence à Angers, tout comme à Bordeaux, où les premiers résultats ne permettent pas d'établir de lien entre le décès et la consommation de ce lait. Les ministères de l'Agriculture et de la Santé disent rester pleinement mobilisés face à une alerte sanitaire d'ampleur et évolutive.
Là, je pense à l'angoisse des jeunes parents ce matin qui nous écoutent. Vous consommez ces laits Gigos, ces laits Lactalis. Vous n'hésitez pas à témoigner au 32-16 ce matin. On sera avec l'ONG Foodwatch à 7h40 qui saisit la justice. L'institution de Betaram va-t-elle fermer ses portes?
Établissement catholique au cœur d'un vaste scandale. Depuis deux ans, près de 250 plaintes ont été déposées pour violences et agressions sexuelles par d'anciens élèves, des faits couvrant une large période des années 50 au début des années 2000. Et se pose désormais la question de l'avenir du site. On a entendu tout et son contraire hier, Romain Hougue.
Oui, tout part hier d'une déclaration de l'organisme qui chapeaute le fonctionnement des établissements catholiques. Selon son président Pierre-Vincent Guéret, le mot Betaram doit être envoyé aux oubliettes de l'histoire, dit-il, avant d'annoncer la fermeture de l'établissement avant l'été. Association de victimes et les rapporteurs de la commission d'enquête parlementaire née du scandale s'en félicitent. Sauf que voilà, quelques heures plus tard, il est contredit par le secrétaire général de l'enseignement catholique. Il a parlé trop vite, lance-t-il. La décision n'est pas encore actée. Une querelle de chef déplore quant à lui Alain Esquer, ancien élève à l'origine de la révélation du scandale. Selon lui, les parents auraient déjà été prévenus de la fermeture de l'enseignement catholique. L'établissement serait dans une situation financière catastrophique. Or, sans financement, Betaram risque bien de devoir fermer ses portes. La décision finale reviendra bien à l'OGEC, la structure qui a annoncé en premier la fermeture de l'établissement.
Il est 7h03, on en vient à ce pétrolier en provenance de Russie, arraisonné par la marine française hier en Méditerranée sous sanction internationale. Il a été dérouté vers un point de mouillage sous escorte, annonce d'Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. Le chef de l'État se dit déterminé à garantir l'efficacité des sanctions puisque ce bateau, Clara Gabillet, est soupçonné d'appartenir à la flotte fantôme de Moscou.
Oui, c'est entre l'Espagne et le Maroc que la marine française a arraisonné ce cargo pétrolier long de 250 mètres pour vérifier sa nationalité, soupçonné de naviguer sous faux pavillon. Des doutes confirmés après examen des documents. Aujourd'hui, ce navire opère officiellement sous la bannière des Comores, mais depuis 2022, il a changé au moins trois fois de pavillon et surtout, il s'appelle aujourd'hui le Grinch, mais il était jusqu'en avril dernier le Karl, un nom sur la liste des navires sanctionnés par l'Union européenne et par les États-Unis, ce qui n'étonne pas Hervé Baudu, membre de l'Académie de Marine.
Pour essayer de perdre un petit peu le tracé du navire, il change de pavillon. C'est des pays qui ne sont pas trop regardants sur la réglementation. Et là, ce navire-là était connu. Il venait de Mourmansk, qui est un hub de chargement de pétrole. Et donc, le pétrole russe est sanctionné. La France a décidé d'intervenir.
Et donc, d'intercepter ce cargo qui se dirigeait vers l'Est, probablement vers la Turquie ou l'Inde, des pays soupçonnés d'acheter du pétrole russe sous sanction.
La Russie qui sera aux Émirats Arabes Unis ce vendredi, réunion tripartite avec l'Ukraine et les États-Unis portant sur des questions de sécurité, alors que Volodymyr Zelensky dit avoir conclu un accord avec Donald Trump hier sur des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Le président américain et sa décision de ne finalement pas imposer de surtaxe douanière saluée par l'Union européenne. Réunis hier soir à Bruxelles, les 27 se disent tout de même vigilants. Ils affichent leur volonté à défendre les intérêts de l'Europe contre toute forme de coercition.
Il est 7h05 sur RMC et cet avis de tempête dans l'Ouest.
La dépression Ingrid débarque avec ses fortes rafales de vent, la pluie aussi en quantité importante attendue dans l'Ouest du pays. Trois départements bretons sont toujours en vigilance au cru ce matin. Plusieurs routes sont fermées à la circulation où l'eau est montée par endroits dans la région, provoquant d'importants dégâts matériels. C'est le cas du côté de Quimperlé. Cassandre Brault.
Raquettes à la main et bottes aux pieds, Mao pénètre difficilement dans le couloir de l'immeuble de sa grand-mère.
C'est monté jusque ici, ça, on voit très bien la marque, à peu près à 1m50.
9 ans que sa grand-mère est installée ici.
C'est la première fois qu'on voit ça.
Dans son restaurant, Valérie constate les dégâts.
En cuisine, les frigos, congélateurs.
Et la liste s'allonge au fur et à mesure.
Les radiateurs, le parquet, on n'a pas encore fait le tour de tous les dégâts.
La gorge serrée, cette gérante se sent complètement démunie.
Il y a tout qui s'arrête, on a tout perdu.
Et avec les nouvelles précipitations, la décrue s'annonce très lente, selon Michael Kernez, le maire de Quimperlé.
C'est une cuvette. On est en bas d'un bassin versant qui est très très important. Quand il pleut dans les Côtes d'Armor, quand il pleut en proximité, l'eau descend jusqu'à Quimperlé.
Des moyens restent donc mobilisés ce matin dans la commune.
On reste extrêmement prudent et donc on a maintenu le dispositif interdiction de circuler, vigilance absolue et soutien à la population.
Le maire espère que les 14 habitants évacués pourront retrouver leur logement dans le week-end.
C'est aujourd'hui que Sébastien Lecornu va affronter, a priori, esquiver les deux motions de censure RN et LFI déposées après le passage en force du Premier ministre via le 49.3 sur la partie recette du budget.
Et ce matin, l'Olympique Lyonnais est toujours en tête de la Ligue Europa.
Et assuré, en plus, d'une qualification en huitième de finale après sa victoire 1-0 sur la pelouse des Suisses du Young Boys Berne. Ça se complique à l'inverse pour Lille, battu 2-1 par le Celta Vigo, des nordistes 21e au classement, qui ne rien ne réussit en ce moment. Et cela commence à agacer Jean Baumel.
Oui, cette quatrième défaite de suite en étant à 11 contre 10 pendant plus d'une heure ne passe pas chez certains joueurs comme le défenseur Romain Perrault.
C'est compliqué d'entamer un match de cette façon. Ce qui m'énerve le plus, c'est la suite. C'est ce qui s'est passé derrière. À 10 contre 11, on n'a pas été suffisamment déterminé, suffisamment juste pour aller chercher un résultat. Donc ce soir, beaucoup d'énervement, c'est tout. Il faut vite inverser la tendance.
En conférence de presse, l'entraîneur lillois Bruno Genesio était dans une colère froide et énigmatique suite aux erreurs répétées de ses joueurs.
Tout le monde va devoir assumer. Moi, je vais assumer le premier, puisque c'est moi qui suis responsable, c'est moi qui fais l'équipe. Donc forcément, le premier responsable, c'est moi. Et je vais assumer mes responsabilités. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui doivent se remettre en question et assumer les leurs. Mais les miennes, je vais les prendre.
Mais ça ne veut pas dire démissionner.
Vous verrez, je vous le dis, je vous verrai dans les jours qui viennent.
Dimanche soir, face à Strasbourg, le LOSC devra montrer autre chose au stade Pierre-Mauroy pour ne pas tomber dans une crise profonde.
Et on retiendra aussi de cette soirée la première victoire de Nice, vainqueur des Néerlandais, des Go Ahead Eagles, la fin d'une série de 18 matchs sans victoire en Coupe d'Europe pour les Aiglons. Et puis il n'y a plus de Français ce matin à l'Open d'Australie. Corentin Moutet a été balayé en 3-7 cette nuit par le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz.
Merci beaucoup Thibaut Texer.